Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média et également de retrouver ce studio que nous avions quitté depuis jeudi. Mais ça y est, tout le monde est négatif au Covid dans l'équipe et nous sommes de retour, à commencer par Hélène Manarino et son portrait inattendu, ce sera aux alentours de 10h20. Vous retrouvez également sous leur masque Charles Decan pour le journal des médias, Eva Rock pour le zapping du lendemain et Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Nos indispensables du jour, de la musique et des séries, notre infomédia, un reportage primé dans Paris Match et un site francophone qui cartonne, francophone mais canadien. Nos invités ensuite, Julia Vignali qui revient pour la 9e saison du Meilleur Pâtissier, émission elle aussi touchée par le coronavirus cet été. Vous allez voir ce que ça va changer dans le spectacle. Enfin, l'humoriste Kairon pour son film Brutus contre César avec un casting 5 étoiles. Gérard Darmon, Thierry Lhermitte, Ramzi Bedia, Pierre Richard, Bérangère Krief et je m'arrête là parce qu'on doit rendre l'antenne à 11h. Oui, parce que nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles.
La BBC ne plaisante pas avec Twitter, TF1 officialise le retour de Mask Singer et les audiences de septembre dans le rétroviseur.
Alors on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Alors la bataille a été extrêmement serrée, elle s'est jouée à 34 000 téléspectateurs près. En première position, on retrouve France 3 avec un nouvel épisode d'Alexandra L. La série française avec Julie Depardieu pointe à 3,9 millions de téléspectateurs, soit 17,2% du public. Good Doctor est juste derrière sur TF1. Les deux épisodes inédits de la série américaine ont fédéré en moyenne à l'arrondi eux aussi 3,9 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 17,7%. En revanche, la Une est largement leader sur les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29%. C'est M6 qui est troisième avec un nouveau numéro de recherche appartement ou maison. Un bon score, 2,5 millions de personnes ont suivi l'émission de Stéphane Plaza, soit 11,5% du public. M6 est aussi performante sur les femmes de moins de 50 ans à 20%.
Culture Média.
Après les audiences, on commence ce journal des médias avec la menace du nouveau patron de la BBC.
On ne plaisante pas avec la neutralité à la BBC, c'est l'un des axes défendus par le nouveau patron du groupe public britannique devant un comité parlementaire hier, il s'appelle Tim Davy. Il a pris ses fonctions le 1er septembre dernier et il vient de faire passer un message très clair à tous les collaborateurs de la BBC. Ne tweetez pas n'importe quoi. Le mois prochain, une liste de mesures et de sanctions va être publiée pour régir l'utilisation des réseaux sociaux par les stars de l'antenne, mais aussi par tout le personnel de la BBC. Selon la gravité de la situation, les personnes concernées pourront se voir interdites de communiquer sur Twitter, Facebook ou Instagram et il n'est pas exclu qu'elles puissent même être licenciées.
Mais pourquoi être aussi strict soudain à ce sujet?
Le nouveau patron de la BBC veut éviter de donner du grain à moudre à ceux qui accusent le groupe public de ne pas être impartial. Ces dernières années, des salariés même très connus du groupe n'ont pas hésité à donner leur avis sur la politique, notamment évidemment sur le Brexit, ce qui met à mal l'image et la crédibilité de l'info issue de la BBC. Il existait déjà des règles assez strictes pour les journalistes du groupe, mais de nouvelles consignes vont être données à tous les employés, même ceux qui animent ou préparent des divertissements ou des séries. Rassurez-vous, les licenciements ou fermetures de comptes ne concerneront que les cas les plus graves. Certains auront juste besoin d'une petite discussion, a ainsi expliqué Tim Davy.
Les audiences mensuelles ont été publiées en début de semaine par Médiamétrie, audience mensuelle de la télé.
Oui, c'est l'heure de faire le point sur le mois de septembre et les nouvelles sont bonnes pour le service public. Le décalage du Tour de France à la rentrée n'y est évidemment pas pour rien. On a déjà parler des excellents scores enregistrés chaque après-midi par la compétition cycliste. Résultat, France 2 pointe à 16,4% de part d'audience sur le mois. C'est sa meilleure rentrée depuis 2007.
Ah oui.
France 2 a aussi cartonné en dehors du tour, a aussi cartonné en prime grâce à Alex Hugo, on en a parlé régulièrement. Et ses après-midi hors Tour de France continuent de fédérer. On l'a vu avec les records d'audience enregistrés par Ça commence aujourd'hui de Faustine Bollard. Du côté de France 3 qui pointe à 10,3% de part d'audience, il s'agit du meilleur mois de septembre depuis 2010, grâce au tour bien sûr, mais aussi grâce au carton enregistré le samedi soir en prime ou encore à la stagiaire.
Et du côté des chaînes privées?
Alors TF1 reste évidemment leader, mais en petite forme face à cette concurrence inhabituelle. Elle signe sa pire rentrée historique, tout simplement à 18,8%. En cause, en prime, Big Little Lies qui n'a pas trouvé son public, ou encore Clem qui a chuté face à L'Amour est dans le Pré. La chaîne a en revanche pu compter sur le retour réussi de Koh-Lanta par exemple, et elle peut se consoler avec un score en hausse sur sa cible fétiche, les femmes de moins de 50 ans, à 22,3%. Du côté d'M6, c'est pas non plus la joie. Au contraire, la chaîne est au plus bas pour un mois de septembre depuis 91. Et sur les femmes de moins de 50 ans, contrairement à TF1, elle baisse aussi sur un an à moins de 15%. Heureusement qu'elle a relancé L'amour est dans le pré, toujours fédérateur, même si, je viens de le dire, elle a perdu des plumes face à Clem sur TF1.
D'autres choses à noter parmi les chaînes de la TNT ?
Oui, France 5 et TMC font toujours la course en tête, à 3,3 et 3,2% de part d'audience respectivement. Les deux chaînes sont bien aidées par les retours en grande forme de C'est à vous et de Quotidien. À l'inverse, l'accès de C8 est à la peine, on en a parlé. Il entraîne la chaîne avec lui, 2,4% de part d'audience au compteur. C'est sa pire rentrée depuis 2012, quand elle s'appelait encore Direct 8. Et enfin, on en parlait aussi il y a quelques jours, du côté des chaînes info, CNews fait une rentrée fracassante. La chaîne du groupe Canal+ a doublé son audience par rapport à la rentrée 2019. Elle pointe à 1,5% de part d'audience. C'est toujours un point de moins que BFM TV, mais c'est 0,5 de plus que LCI.
Et puis, pour reprendre des couleurs, TF1 espère pouvoir compter sur Masked Singer.
La chaîne l'a officialisé hier, la deuxième saison de son concours de chant masqué, particulièrement d'actualité en période de pandémie, sera de retour le 17 octobre prochain. Au passage, la Une change la programmation de l'émission. La saison 1, vous vous en souvenez, avait été proposée le vendredi et elle passe cette année au samedi. Évidemment, pas question de toucher à Koh-Lanta qui occupe la case du vendredi. On ne change pas une équipe qui gagne, donc pas d'évolution du côté des enquêteurs. Jarry, Alessandra Sublet, Kev Adams et Angoune seront de retour, tandis que Camille Combal sera bien sûr aux commandes de l'émission. Et la force de cette deuxième saison résidera dans son casting, enjeu numéro un pour légitimer l'émission.
Voilà, vous savez ce qu'on entend toujours dire, il faut des stars sous les masques. Juste pour situer, l'an dernier, j'ai lu sur Twitter que j'étais sous le crocodile.
Oui.
Donc, ce qui n'était pas vrai, évidemment.
Il faut des stars, c'est la promesse de l'émission. Et effectivement, il y a eu quelques critiques à ce sujet l'an dernier. Même Kev Adams l'a reconnu au micro de Louise Bernard.
Le principe de ce jeu, c'est de deviner qui se cache sous le masque. Si tu y prends du plaisir, je comprends très bien que certains enfants aient pu être déçus quand tu passes toute une émission à chercher qui se cache sous le masque et t'enlèves le masque et ils sont déçus. Moi, je peux très bien comprendre ça, mais moi, je crois que le plus... Et moi-même, parfois, j'ai été déçu. Mais je crois que malgré tout, ce qui prend le dessus là-dessus, c'est le plaisir que tu prends à chercher. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce plaisir-là, il est exceptionnel de faire ton enquête chez toi ou sur le plateau, de dire « toi, t'en penses quoi ?», d'argumenter avec les autres. Enfin, c'est quand même rare, les soirées télé comme ça, qui donnent à parler, qui donnent à débattre, qui donnent à se renseigner. Moi, je suis heureux s'il y a des enfants qui ont découvert l'existence de Marie-Josée Perret grâce à Masked Singer, parce que c'est une grande athlète française, c'est formidable. Et je crois que sur cette saison, pour le coup, il y en a encore plus pour toutes les générations. En tout cas, le casting, je l'ai trouvé plus ambitieux, plus diversifié que sur la première saison.
Du côté de TF1, on ne partage pas cette impression sur le casting de l'année dernière, mais on reconnaît qu'il y avait un axe d'amélioration. C'est Rémi Faure, directeur des programmes de flux de la chaîne, qui nous l'a expliqué.
Je pense que les 12 l'an dernier étaient très connus, incontestablement, il n'y avait pas de sujet de notoriété. En revanche, peut-être qu'effectivement, il nous manquait un ou deux ou trois persos qui parlent davantage à un public un peu plus jeune, pour qu'ils s'y retrouvent aussi, parce qu'à la fin, c'est vrai que c'est un programme qui, sur les enfants en particulier, et puis les jeunes, fait des audiences assez extraordinaires. Donc on l'a cette année, ça.
Des stars connues des jeunes, donc, mais pas seulement. TF1 a une botte secrète dans son casting. Donc Camille Combal, Alessandra Sublet et Kev Adams ont parlé à Louise Bernard.
Alors, moi, surtout que c'est quelqu'un que je kiffe, donc j'étais trop content. Voilà, donc c'est pour ça, la star internationale, ça m'a vraiment marqué, je suis trop content. J'ai pris peu de selfies avec des gens dans ma carrière pour demander « Ah, pour faire un selfie ?» Bon, là, je l'ai fait, mon petit selfie à la fin.
Ça a donné un tournant à cette émission, parce qu'effectivement, t'es dans une bulle pendant un prime entier, où vraiment tu sais pas, et là, vous allez être waouh.
Moi, ça m'a apporté une petite journée d'excitation, je ne vais pas vous mentir. Hein. C'était quand même très, très agréable d'essayer de deviner qui se cachait sous ce masque. J'ai l'impression qu'on est un peu habitué aux stars internationales sur TF1. J'ai l'impression qu'ils ont un sac à stars internationales et ils ressortent toujours la même. Je parle de Kylie Minogue pendant 17 Energy Music Awards, vous voyez de quoi je parle. Et là, pour le coup, sans trop vous en dire, j'ai été très surpris. J'ai été un peu même sur le cul et je me suis dit, c'est fort. Ouais, c'est fort d'avoir été poussé le délire jusque-là, c'est fort, c'est technique. C'est original et ça donne forcément beaucoup de crédit au programme, quoi.
Et on termine ce journal avec l'annonce d'une suite de l'un des plus gros cartons de l'histoire du cinéma.
Disney l'a officialisé hier, Le Roi Lion aura une suite. Alors je veux bien sûr parler du film en prise de vue réelle qui est sorti en 2019, réalisé par Jon Favreau. C'était l'adaptation très fidèle du dessin animé culte de 1994. Et côté voix, Disney avait notamment convaincu Beyoncé de prêter sa voix à l'un des personnages. Pour l'instant, on ignore tout du scénario de cette suite, mais une première version a déjà été écrite. On ne sait pas non plus quand la production pourrait démarrer, ni quand le film sortira en salle.
On sait quelque chose ?
Oui, on sait une chose. On sait que Disney a confié la réalisation à Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film en 2017. Cette suite du Roi Lion est... est forcément un projet prioritaire pour Disney, après le succès phénoménal du premier film, avec près de 1,7 milliard de dollars de recettes. Il s'agit du 7e film le plus lucratif de l'histoire du cinéma. En France, le film a captivé 10 millions de spectateurs, soit quasiment autant que le dessin animé de 94.
Merci Charles Decan, à demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média continue évidemment. Notre première info média du jour, c'est le magazine Paris Match qui a remporté deux récompenses. Une pour la meilleure enquête de l'année et l'autre pour le meilleur magazine de l'année. Rien que ça, on sera avec le directeur de la rédaction de Match et du journal du dimanche, Hervé Gattegnaud. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Double info média du jour aujourd'hui, et la première info média, c'est une récompense, et même deux pour Paris Match, qui après délibération d'un jury composé de journalistes et de diffuseurs, se voit attribuer le prix relais de la meilleure enquête de l'année pour Afghanistan, la revanche des talibans, reportage de Manon Kérouille-Brunel et Véronique Vigry, mais également le prix du meilleur magazine de l'année. On a connu des septuagénaires en moins bonne forme. Le journal a 71 ans. Bonjour Hervé Gattegnaud.
Bonjour.
Ça vous fait sourire et j'en suis ravi. Vous êtes le patron de la rédaction de Paris Match et du journal du dimanche. Match qui succède comme meilleur magazine de l'année à Vanity Fair, Alternative économique et Femme actuelle senior. Pour obtenir ce prix relais, il faut présenter sa candidature déjà.
Oui, bien sûr.
Et ce n'est pas la première fois que vous la présentez. Comment expliquez-vous que vous n'ayez pas gagné jusque-là? Comment expliquez-vous que vous ayez gagné cette fois-ci? Est-ce à dire que Paris Match s'est bonifié?
Oui, d'abord, bien sûr, Paris Match se bonifie avec l'âge. Les très bons magazines, c'est comme les très bons vins. Ça gagne, ça progresse avec le temps.
Oh pardon, c'est pas si aussi facile que ça. Au-delà de la formule, il y en a qui meurent des magazines.
Oui, malheureusement.
Déjà, le fait d'exister...
La presse ouais, est un marché difficile. Paris Match a acquis un statut dans le paysage de la presse française qui est à la fois celui d'une institution et celui d'une sorte d'avant-garde. Paris Match, régulièrement dans son histoire, a moderniser les pratiques de la presse en France, à innover, et c'est ce qu'on essaye de faire encore. Donc je vois dans ce choix du jury un honneur et un défi. Un honneur parce que c'est une très belle récompense pour la rédaction et d'une certaine façon pour tous nos lecteurs qui sont très nombreux. Et c'est aussi un défi parce que c'est un défi pour nous de toujours continuer, de toujours innover et de toujours essayer d'être meilleur que les autres et plus performant.
On avait parlé ici il y a quelques semaines de cette interview en exclusivité mondiale de Nafisa Tudiallo à New York. Ça s'est bien vendu?
Oui, ça s'est très bien vendu. Oui. C'est notre meilleure vente depuis la fin des vacances d'été.
Alors j'en viens à ce reportage de Manon Kérouille-Brunel et Véronique Vigry. On avait un peu oublié les talibans en Afghanistan. Que raconte, que montre ce reportage?
C'est un reportage d'abord assez audacieux. Deux jeunes femmes, deux reporters qui comptent parmi la nouvelle génération des grands reporters qui vont là où il y a du danger. Et en Afghanistan, on aurait tort de croire qu'il n'y a plus de danger. C'est un pays qui est toujours divisé par la guerre. Une partie du territoire contrôlée par l'armée officielle et puis une partie du territoire contrôlée par les talibans. Manon et Véronique sont allées chez les talibans dans la province du Nangarhar. Elles ont rencontré des dirigeants du comité militaire de cette région et elles racontent l'espèce de double jeu des talibans qui sont en opération de séduction. Ils veulent montrer qu'ils sont les gentils puisqu'ils ont vaincu Daesh. Ouais. Mais ils se montrent aussi comme ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes armés, déterminés à prendre le pouvoir. Et on a vu par la suite, depuis ce reportage qui est paru à la fin de l'année dernière, qu'ils ont progressé vers le pouvoir. Ils ont continué de progresser vers le pouvoir en Afghanistan.
Je vais citer le célèbre slogan de Paris Match qui a été inventé par l'écrivain Jean Co, le poids des mots, le choc des photos. Slogan qui reste d'actualité puisque ce reportage de Manon Kérouille-Brunel et de la photographe Véronique Lavigri sur les talibans a eu ce prix. Mais on peut également parler du poids des images au vu des reportages sur votre site. On écoute.
La Turquie a apporté au camp Sarraj, à l'ouest, son expertise militaire, ses drones, ses officiers, mais aussi elle a recruté des milliers de mercenaires en Syrie qu'elle a fait venir par avion jusqu'à l'aéroport de Misrata. Pour Paris Match, nous avons été à la rencontre de ces Syriens capturés par les troupes d'Haftar pendant l'offensive et qui aujourd'hui sont dans des prisons à Benghazi.
Il s'agit d'une vidéo exclusive sur des mercenaires récupérés par Erdogan, le président turc. Combien de journalistes travaillent pour Paris Match, version papier et version digitale?
Oh bah, au total, je dirais entre 120 et 130 journalistes. Chez nous, vous savez, comme dans beaucoup de rédactions parisiennes, il y a une grande circulation néanmoins entre la rédaction du print, comme on dit, ceux qui écrivent des articles dans le journal imprimé, et la rédaction du web. Là, la voix que vous avez entendue dans ce sujet, c'est celle de Régis Le Sommier, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent, puisque c'est souvent lui qui vient raconter les meilleures trouvailles de Paris Match chaque semaine. Et donc, Régis est retourné récemment avec la même photographe, Véronique de Vigry, en effet en Afghanistan, à plusieurs reprises. Évidemment, à Paris Match, nous suivons ces endroits où, où le monde bascule parfois, ces endroits où il se passe des choses dont la presse écrite a parfois du mal à parler. Avec cette force que nous avons, vous l'avez dit Philippe, c'est le choc des photos et le choc maintenant des images vidéo. De plus en plus régulièrement, nous diffusons en effet des petits films qui sont magnifiques montés et qui sont pratiquement des films de télévision qui racontent ces zones de guerre où finalement les reporters ne vont pas si souvent parce que c'est dangereux.
Là on parle avec beaucoup de sérieux de sujets graves, mais vous ne manquez pas d'humour. La campagne pour mettre en avant le prix Relais est une affiche dont le slogan est celui-ci: pour les Français, le plaisir dure en moyenne 27 minutes. C'est une allusion au temps moyen passé par le lecteur à lire un magazine ou plutôt à le feuilleter. Combien de temps il faut pour lire Match en entier?
Ah, pour le lire en entier, il faut plusieurs heures.
Il y a à lire, hein.
Oui, oui, il y a beaucoup à lire et nous espérons qu'il y ait de plus en plus à lire. Vous avez bien fait de rappeler ce slogan qui est le slogan de presse le plus connu de l'histoire du journalisme dans notre pays, inventé par Jean Co, en effet. Dans Paris Match, il y a vraiment ces deux dimensions. On aurait tort de croire que Paris Match, c'est surtout des photos et on aurait tort de croire aussi que c'est un news magazine comme les autres. Ce n'est pas un news magazine, ce n'est pas non plus un magazine People. C'est un très grand magazine d'actualité et moi, j'aime dire un magazine grand public.
D'après la CPM, si je suis bien informé ou si j'ai bien relevé ça, Match est lu deux fois plus par les femmes que par les hommes.
Oui, alors vous savez que les femmes sont de plus grandes lectrices que les hommes en France.
Mais on
n'imagine
pas, pardon, on n'imagine pas que ce soit un, entre guillemets, féminin.
Oui, alors vous savez, Match, c'est un magazine qui circule beaucoup de main en main. On le sait, dans les salles d'attente, on a tous vécu cette scène. Parfois d'ailleurs, les gens aiment tellement Paris Match qu'ils le piquent dans la salle d'attente. Et à la maison, c'est la même chose. Souvent, peut-être que c'est une femme qui l'achète et son mari ou ses enfants qui le lui piquent. Paris Match, c'est un journal qui circule beaucoup. Les femmes sont de grandes lectrices, donc nous y tenons beaucoup.
Mais et vous pensez à elles ?
Je crois que oui, bien sûr.
Vous faites votre sommaire droit comme un i, ou est-ce que vous dites, tiens, on a deux tiers de lecteurs de femmes, il faut en tenir compte ?
Non, on ne raisonne pas comme ça, mais en revanche, on se dit qu'il en faut pour tous les goûts dans Paris Match. Et vous savez, les femmes, je crois, globalement, s'intéressent à la même chose que les hommes. En tout cas, dans les sujets que nous traitons, les guerres, les people, la politique, les grandes enquêtes, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence en réalité.
Et en l'occurrence, vos deux grands reporters récompensés étaient des grandes reporters récompensées.
Et elles sont formidables.
Manon Kérouille-Brunel et la photographe Véronique de la Vigry, ça fait plaisir de les citer. Merci beaucoup Hervé Gattegno, bravo encore pour Match, élu meilleur magazine de l'année. Ça sort chaque jeudi, faut-il le rappeler. Tout de suite, notre deuxième info média du jour, c'est Urbania, un nouveau site d'info qui rend l'ordinaire extraordinaire. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Pendant que je suis en train de mettre mon masque, je vous demande à vous d'imaginer un site qui mettrait en avant la liberté individuelle à travers des articles écrits à la première personne pour traiter de la société, de la culture, des relations humaines, avec une joyeuse envie de briser les tabous et de célébrer les différences. Eh bien, c'est le but avoué de Urbania.fr, site québécois créé en 2003, qui est devenu là-bas une institution. 525 000 lecteurs mensuels pour un pays seulement de 8 millions d'habitants. C'est énorme, rapporté à la France, ça ferait 4,5 millions. Site dont la déclinaison française est officiellement lancée aujourd'hui. Bonjour Florent Péfer.
Bonjour.
On vous a connu sur iTélé, vous présentez les journaux, vous êtes directeur général d'Urbania France désormais. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre site? C'est la question la plus difficile qu'on ne trouvera pas ailleurs.
C'est la question la plus difficile et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse absolue, parce que le but d'Urbania, c'est de surprendre. On est vraiment à l'inverse en tout cas, notre projet, il est à l'inverse d'un projet formaté où je pourrais vous dire, voilà, vous aurez des formats tout faits, vidéos, que vous allez reconnaître à chaque fois, auxquels vous allez vous habituer. Pour nous, chaque sujet, c'est une aventure, vraiment une aventure. Et quand je parle d'une aventure, c'est qu'on va à la rencontre des individus dans leur intimité. Souvent, on n'est pas là pour faire des grandes théories sur la société. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'aller parler aux gens. Tous les gens, pour nous, sont des gens ordinaire extraordinaire, d'où notre, on va dire notre punchline qui est rendre l'ordinaire extraordinaire. Et on a vraiment une mission qui pour nous est très importante, surtout dans la société française, c'est d'aller briser les tabous. On revendique ce côté impertinent. Donc ce que vous trouverez sur Urbania que vous ne trouvez pas ailleurs, c'est peut-être cette pertinence justement. Et ce qu'on souhaite nous, c'est qu'on apporte, on amène les gens non seulement à réfléchir, mais aussi à rire et pourquoi pas à rougir aussi en lisant ou en regardant certaines vidéos.
Pourquoi rougir ?
Rougir parce qu'on veut rentrer dans l'intimité. On veut pouvoir parler des thèmes qui sont habituellement pas abordés dans les grands médias.
Par exemple, quel sujet vous a fait vous-même rougir ?
Par exemple, on parle très volontiers de pratiques sexuelles où on va sur des sujets dont on parle, alors qu'ils ne font peut-être pas rougir, mais qui, en tout cas, dont on parle très peu dans les grands médias, par exemple les règles.
Ouais.
On va sur des tabous qui, moi, me semblent aujourd'hui complètement aberrants dans la société française. Par exemple, l'alcool au féminin, qui pour moi est un sujet très important, qui reste tabou dans la société française et dont on parle peu.
Puisque vous en parlez, on trouve des vidéos, des interviews de personnalités comme le psychiatre Serge Tisseron qui s'exprime sur la logique des réseaux sociaux, mais également des témoignages bouleversants comme vous en parliez, ça tombe très bien, celui d'une ancienne alcoolique qui s'adresse à elle-même. Elle s'appelle Carole, on l'écoute.
Bonjour Carole, je vais te raconter comment tu es tombée dans l'alcool. Et plus ça allait, plus tu buvais, plus tes filles, de toute façon, même si tu te cachais, s'en rendaient compte, tu n'étais plus normale, tu n'étais plus la maman qui était joyeuse, c'était plus la maman qui s'occupait d'elle comme elle le faisait. Tu étais complètement enfoncée dans l'alcool et tu as demandé à leur père de les prendre. Ça a été boire le jour, boire la nuit. Tu allais dans des fêtes, tu rencontrais plein de monde. Tu étais dans l'alcoolisme mondain, mais en fin de compte, tu n'étais même plus dans l'alcoolisme mondain, étant donné que tu buvais dès le matin. Tu buvais de tout. Tu buvais du champagne, tu buvais de l'alcool fort. Mais chez toi, tu buvais du vin bon marché parce que tu n'avais plus d'argent.
C'est vrai qu'on est totalement dans l'intime, au-delà de l'info. Alors, les papiers sont très bien écrits, incarnés, parfois assez drôles, comme par exemple celui que vous mettez en avant aujourd'hui. Vous avez essayé de dépenser en une semaine les 200 milliards de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et l'homme le plus riche du monde. Vous, sans trop spoiler, vous êtes arrivé ou pas du tout ?
Je peux spoiler quand même un peu, mais non, on n'y est pas arrivé. Pourtant, on a vraiment donné tout ce qu'on pouvait pour y arriver. On s'est acheté la plus grande maison, des équipes de foot, des trucs partout, et au finish, on n'y est toujours pas.
Et vous n'avez pas réussi à claquer vos 200 milliards ? Vous auriez pu racheter Urbania. Le site, et on peut le trouver depuis le début d'année, il fonctionne, mais vous ne le lancez officiellement qu'aujourd'hui en France. Pourquoi vous attendiez qu'il y ait suffisamment de contenu ? Pour quelle raison ?
Non, on s'est dit que la moindre des choses lorsqu'on lance un média et lorsqu'on annonce le lancement d'un média, c'est que quand vos auditeurs et les gens qui entendent parler veulent aller voir, ils ont quelque chose à trouver dessus et qu'ils puissent faire un avis. Donc évidemment, pour nous, il fallait d'abord qu'on montre du contenu et qu'on commence à produire du contenu. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, cette phase de lancement pour nous, elle est très importante symboliquement, évidemment, mais pas que. Parce qu'on va produire beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus d'articles dans les prochains mois.
Combien de journalistes travaillent pour le site français ? Est-ce que vous récupérez beaucoup de sujets qui viennent du Québec ? Et en France, les abonnements ne sont pas payants. Donc, quel est votre modèle économique ? Je sais, ça fait trois questions en une.
Ça fait trois questions en une. Je vais essayer d'aller vite. Combien de journalistes ? Une vingtaine, dont certains sont permanents. Est-ce qu'on récupère des articles au Québec ? En tout cas, on ne se l'interdit pas. Évidemment, c'est réécrit, parce qu'il y a des expressions québécoises et des situations là-bas qui sont différentes des nôtres, mais il y a des sujets de société, pour le coup, qui nous concernent et qui concernent aussi la France. Le Québec est souvent en avance sur ces questions-là, les questions de mœurs notamment. Donc on veut s'en inspirer. Et puis la troisième question, sur le modèle économique, on fait du contenu également pour les marques. Et le modèle économique d'Urbania, il est assez spécial, parce qu'on a une société de production audiovisuelle également. Et donc du coup, on produit aussi des formats pour la télévision.
Il y aura une version papier un jour ou pas ?
On espère qu'il y aura une version papier, ça fait partie des projets. Ouais. C'est avant tout une version papier au départ Urbania au Québec.
Merci beaucoup Florent Péfer, je le rappelle, vous êtes le directeur France d'Urbania, urbania.fr, et donc à consulter gratuitement sur Internet.
Merci.
Dans un instant, notre invité pour la partie médias proprement parlée, c'est l'animatrice Julia Vignali qui sera avec nous pour la toute nouvelle saison du meilleur pâtissier sur M6. A tout de suite, on fait chauffer le four.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h,
Philippe Vandel.
Bonjour Julia Vignali.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Plaisir de vous entendre, vous incarnez sur M6 une émission emblématique, Le Meilleur Pâtissier. Pour qui ne connaîtrait pas, c'est un concours de pâtissiers amateurs qui s'affrontent dans des épreuves, puis ensuite départagés par un jury. Cyril Lignac et Mercotte, qui est une blogueuse, et également des chefs et des pâtissiers invités. La 9e saison démarre ce soir à 21h. Bande annonce.
Le meilleur pâtissier, ça y est, on y est. À vos marques.
Prêt, pâtissier.
C'est parti pour une nouvelle saison, vraiment pas comme les autres.
J'ai jamais fait les fruits sur moi.
Oh, ça y est, je respire.
Embarqué pour un tour du monde de la gourmandise.
Eh hey les gars, je vous amène à la Réunion.
Et moi sur la Lune.
C'est super le décor là.
J'ai du savon de plein la bouche, c'est génial.
Au menu, de l'inattendu et des nouveaux challenges.
La dégustation se fera directement dans l'antre du diable.
Et cette année, un événement pourrait remettre tout en question.
Ah oui ?
Oh là 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 !
Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
Le meilleur pâtissier, nouvelle saison, sur M6.
Normalement, on tourne ces émissions avec beaucoup d'avance. Il paraît que les tournages se sont arrêtés il y a seulement 3-4 semaines, le 10 septembre dernier. Vous confirmez, Julia Vignali ?
Tout à fait. 10 septembre, c'était la date de fin des tournages.
Normalement, c'est beaucoup plus, vous allez comprendre pourquoi. Et alors, votre arrivée dans l'émission est marquée par une vanne de vous, qui m'a bien fait rire.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue sous la tente du meilleur pâtissier.
Merci.
Merci. T'es, vous avez un bol terrible cette année. Mercotte a perdu le goût et Cyril l'odorat. Donc vous êtes tranquille. Hein.
La bonne blague, j'ai bien ri. Vous faites... Sauf que quand vous faites cette vanne, vous n'avez pas conscience de ce qui vous attend. Qu'est-ce qui vous est tombé dessus? Racontez.
Alors là, l'enfer en fait. Effectivement, j'aurais jamais fait cette vanne. Déjà, je pensais pas qu'il allait la garder au montage. Et ensuite, au vu de l'actualité, effectivement, c'est beaucoup moins drôle puisqu'on a eu un cas de Covid sur le tournage et nous avons effectivement...
Un cas de Covid
été... enfin,
j'ai lu dans
COVID.
La presse, 16 oui. personnes de l'équipe ont été déclarées positives au Covid. 16 sur une équipe de 70 personnes.
Ben oui, alors moi j'ai jamais eu les chiffres parce que secret médical, mais effectivement nous on nous a simplement dit il y a un cas de Covid, rentrez chez vous, mais je ouais. pense que ce cas de Covid s'est transformé effectivement en plusieurs cas de Covid. Le chiffre exact je l'ai pas, mais en tout cas suffisamment pour qu'on s'arrête de tourner brutalement, mais vraiment d'une minute à l'autre. Hein, ça a été tout le monde chez vous, donc c'est assez brutal effectivement. Et bon, la vanne était drôle, mais un petit peu moins drôle vu ce qui nous est arrivé effectivement.
Bon, ils l'ont gardé, ça va, maintenant tout va bien. 16 personnes, vous en faisiez partie?
Alors j'ai eu la chance de ne pas en faire partie parce que j'ai eu le Covid en fait quand j'étais au moment du confinement et je pense que ça m'a malgré tout prémuni de l'attraper une seconde fois, même si on sait que malgré tout on peut le rechoper une deuxième fois. Bon, en tout cas ça n'a pas été mon tour sur le tournage.
Et Mercotte faisait partie des cas positifs au Covid?
Alors non, pas à ma connaissance. Si
ah bon
Mercotte, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà moi, j'ai pas eu connaissance de qui a eu le Covid ou pas, parce que c'est normal, hein, secret médical, ouais. et donc on n'a pas eu les noms des gens qui étaient touchés. On a simplement su, surtout que personne n'avait été touché gravement. Et puis en ce qui concerne Mercotte, je pense que vous faites allusion à Mercotte parce que effectivement, il y a une partie de l'émission qu'elle passe en présentiel avec nous, et une autre partie après l'arrêt et le ouais. confinement qu'on a subi, elle n'est plus avec nous. La production a préféré qu'elle continue de co-animer l'émission depuis Chambéry, là où elle réside, pour ne vraiment pas du tout lui faire prendre de risques.
Exactement, on va raconter le dispositif. Elle est dans le premier épisode que j'ai vu et qui passe ce soir. Et ensuite, elle disparaît non pas de l'émission, mais du lieu de tournage, à savoir le château où vous êtes. Donc elle est dans sa Savoie natale. Question, pourquoi ne pas l'avoir installée dans une pièce du château, à l'isolement? Pour quelle raison? Pour qu'elle puisse continuer à goûter les pâtisseries, les réalisations des candidats.
Alors, je pense que c'était le vœu le plus cher de Mercotte, hein, c'était de continuer à habiter le château et surtout de continuer à manger les gâteaux. Mais encore une fois, ça c'était une décision de production pour qu'il y ait vraiment aucun risque et même pas prendre le risque qu'elle prenne un train pour regagner Paris. Donc vraiment, c'était pour que le risque zéro qui n'existe pas, on le sait, mais que essayer de minimiser en tout cas tous les risques.
Et alors du coup, Julia Vignali, vous avez pris une place beaucoup plus importante dans l'émission. Vous avez pris le rôle de Mercotte, en gros.
Mais pas du tout. Alors j'ai lu ça dans la presse, mais pas du tout.
Mais moi j'ai
Mercotte.
Lu. Il paraît que c'est vous qui goûtez les gâteaux.
Mais non, mais parce que tout ça est parti d'une vieille vanne. Vous savez, moi, les vannes, je pratique ouais. beaucoup la vanne et apparemment pas toujours à bon escient, on vient de le voir. Et il est vrai qu'après que Mercotte ait été confinée, entre guillemets, chez elle, enfin en tout cas, qu'elle soit restée chez elle pour faire le tournage, eh bien, son assiette était vide, puisque ouais. d'habitude, c'est elle qui goûte. Et là, je me suis emparée de son assiette et j'ai goûté. Mais mon avis et tout ce que j'ai goûté n'a pas d'incidence sur le concours. C'était juste pour me faire plaisir.
J'ai compris. Mais alors, qui juge tout seul? C'était Cyril Lignac tout seul qui a décidé
alors,
de ce
Cyril
qui était bon
Lignac,
ou moins bon.
juger effectivement sur le goût tout seul, sur les saveurs, c'était uniquement lui. Et il essayait de décrire à Mercotte à quoi ça pouvait ressembler en bouche. Ce qui était assez intéressant, puisqu'en fait, Mercotte s'est retrouvé, comme nous tous, à regarder eh bien, la télévision, enfin en tout cas l'écran sur lequel était retranscrit enfin, l'image des gâteaux. Elle était obligée, comme nous les téléspectateurs, d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler en bouche. Donc c'était plutôt rigolo comme exercice.
Vous avez rappelé personne en plus pour combler cette absence?
Oh ben non, Mercotte est irremplaçable, non?
Alors je l'ai
en tout cas, ça fait 9 ans maintenant qu'elle est là, Mercotte. Alors je sais que parfois on me dit, ah, Mercotte, elle est méchante, Mercotte. Mais en fait, tout le monde l'adore, Mercotte, parce que justement, elle dit exactement ce qu'elle pense. Et c'est vraiment un peu le rôle de la grand-mère indigne, vous voyez, un peu sans filtre qu'on adore.
Exactement. Tati Mercotte, elle sera avec nous prochainement dans une émission. J'espère, elle n'est jamais venue à Culture Média. Vous êtes là, Julia Vignali. On marque une pause. On se retrouve juste après ça dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Julia Vignali, qui anime, qui présente, qui incarne la 9e saison du Meilleur Pâtissier. Ça démarre ce soir sur M6 à 21h. Alors je l'ai dit, c'est un concours entre plusieurs pâtissiers amateurs. Et on se demande parfois où vous êtes allés les trouver. Il y a un travail de casting complètement dingue. Par exemple, François-Xavier, qui a passé 20 ans aux États-Unis et qui habite Los Angeles. Il cuisine non pas avec une toque, il est facile à reconnaître, mais avec un chapeau de cow-boy. Et il fait exprès de parler, exprès ou pas, avec l'accent américain. Et c'est encore pire quand il rate sa cuisson, florilège.
Je me suis imprégné un peu plus de la culture américaine. J'ai commencé à être un grand fan de baseball. Ça donne des soirées enflammées et on s'amuse beaucoup.
One, two, three, bam!
J'ai aussi adopté la country dance, la musique de cow-boy. Il n'y a rien de plus relaxant que de danser avec ses amis sur la country dance.
Alors, comment tu vas représenter ce signe?
Je vais faire des plis en ce qu'on appelle un wafer paper.
Comment on appelle ça?
Wafer paper. Number one and number two. All right. Oh, oh fucking shit. Mon Dieu, il est trop cuit, pas assez cuit. C'est un mix de trop cuit et pas assez cuit. Oh mon Dieu. Il pleut, mais the sun shines in my heart. It's gonna be fantastic. I'm gonna make it, I'm gonna do it. Je vais tout défoncer. Let's make cake great again.
Il est comme ça naturellement, François-Xavier, ou alors c'est vous et la prod, Julia Vignali, qui lui avait demandé d'en rajouter?
Non, non, il est venu avec son chapeau, il est venu avec son accent, il est venu avec sa petite différence, et on l'a accepté tel qu'il était, il nous a fait bien rire.
Vous savez très bien que quand les gens sont pittoresques, c'est mieux pour l'audience. Vous ne lui avez pas demandé d'en rajouter?
Écoutez... Non, non, franchement, on n'en a pas rajouté, mais il est vrai que nous sommes tout à fait friands en télévision d'avoir ce qu'on appelle des personnages, et c'est un personnage, mais avant d'être un personnage, c'est surtout un excellent pâtissier, et vous allez pouvoir le découvrir ce soir, il est très très bon, donc ça n'est pas qu'un personnage qu'on est allé chercher, c'est surtout un très bon pâtissier, mais en plus, il se trouve qu'il est drôle, et que c'est une sorte de mélange entre Jean-Claude Van Damme et Mia Fry, quoi, donc c'est exaltant.
Quand vous aviez démarré Le Meilleur Pâtissier, il y a 3 ou 4 saisons, vous aviez déclaré: je ne pensais pas qu'on pouvait pleurer pour une chantilly. Est-ce qu'il y aura des pleurs dans la saison qui arrive?
Alors écoutez, il y a toujours des larmes, mais ce sera plutôt des larmes de joie. Enfin, j'ai trouvé que c'était une saison très drôle. Enfin voilà, on s'est bien marré. Est-ce que c'est parce qu'on sortait d'un confinement et qu'on avait vraiment envie de se retrouver tous? Donc il n'y a pas eu beaucoup de larmes, de catastrophes, mais émotionnellement, ça a été plutôt de la joie, des rires, des catastrophes, évidemment, beaucoup de rebondissements. Mais peut-être qu'il y a eu moins de pleurs, de tristesse que d'habitude.
Alors Julia Vignali, je lance ce sujet parce que vous-même vous en parlez souvent. Comment ça s'est passé pour cette saison, pour ce tournage au niveau du poids? Je veux dire le sens de ma question.
Oui.
Oh là là.
Oui. Non mais moi je sais que maintenant, de toute façon, j'ai un petit bilan média en ce qui concerne mon poids. Il faut que je donne à chaque fois mes mensurations en sortie de
tournage.
Mais
c'est vous qui le racontez. Alors, écoutez, la saison passée, vous dites avoir perdu 600 grammes, c'est précis, je n'invente pas, le Parisien 2 octobre 2019. Vous dites j'ai perdu 600 grammes. Mais pour la première saison du Meilleur Pâtissier, la fête aux calories, vous avez dit je ne pensais pas qu'il était humainement possible de prendre 5 kilos en 2 semaines. Et vous avez expliqué, pendant le tournage, j'habite dans le château, en plus de manger énormément toute la journée, il m'est arrivé, racontez-vous, de me lever la nuit, d'ouvrir le réfrigérateur de la production pour picorer des pâtisseries. Sauf que là, il n'y a plus Mercotte pour goûter, vous étiez toute seule avec Cyril.
Alors, comment ça s'est passé? Le tournage, en termes de poids, s'est passé en deux temps. Première partie du tournage, nickel. Pas bouger la dame. Vraiment super. Mercotte me tapait sur la main dès que je reprenais un peu trop de gâteau. Donc, c'était mon garde-fou. Et à partir du moment où on l'a dématérialisé, qu'elle a fait du télétravail, j'avais une assiette pour moi toute seule. Et là, ça a été le drame. Et donc, effectivement, je repars avec un certain surpoids de ce tournage. Gage d'un tournage de qualité. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et l'avantage, c'est que d'habitude, on tourne juste avant l'été. Donc voilà, là il n'y aura pas de maillot de bain, donc j'ai tout l'hiver pour m'en remettre.
Toute la presse people nous écoute, surpoids de combien? Comme chaque fois vous donnez un chiffre, allez-y.
Ah oui bien sûr, bah, là on est sur du 2-3, ouais 2-3 kilos, mais je mesure 1m73 donc ça va, je floute.
On va rester dans les chiffres. Le meilleur pâtissier est une grosse marque de M6. L'an passé, l'émission a été suivie par 2 460 000 personnes, c'est une moyenne, il y a eu mieux, il y a eu un peu moins bien. C'est un bon chiffre, on va dire les choses, c'est la moins bonne audience des 9 saisons. Est-ce que vous avez un objectif d'audience et lequel?
Alors, merci. Donc là, je suis hyper déprimée parce que moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que ça avait été une super saison et que notamment sur les chiffres de qui intéressent beaucoup la chaîne qui m'emploie, c'est-à-dire le groupe M6, que sur les scores ménagères, on avait cartonné l'année dernière.
Donc je FRDA, je crois aussi que femme responsable des achats. Vous avez raison.
Voilà. Donc vous voyez, moi je me fie plutôt aux bonnes nouvelles et la bonne nouvelle c'était qu'au contraire le programme était extrêmement performant sur les cibles qui intéressent la chaîne. Après sur le numéraire, c'est-à-dire est-ce qu'on fait plutôt 2 millions 5 ou alors avant on faisait 3 millions, je crois qu'hélas toutes les émissions de télévision souffrent d'une baisse de numéraire puisque on le sait, il y a moins de gens qui regardent la télévision, mais par contre sur les cibles qui nous intéressent, elles sont de plus en plus nombreuses à nous regarder.
Et puis il y a aussi le replay. Pareil, vous n'avez jamais fait de gâteau de votre vie. Vous avez dit ça à un journal belge récemment. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous racontez ça pour faire ensuite des bonnes questions avec les journalistes, par exemple la mienne?
Ah oui, vous voyez, je suis une bonne cliente. Hein. Mais non, mais en mais vrai, ouais. Bien sûr que j'ai déjà fait des gâteaux. Je fais des crumbles aux fruits rouges, je fais des 4 quarts, je fais des gâteaux au chocolat. Mais ils ne sont pas... Voilà, ce n'est pas ce qu'on appelle des gâteaux. Quand vous regardez Le Meilleur Pâtissier, ce n'est pas de la pâtisserie que je fais. Je fais du petit gâteau du dimanche, pas toujours réussi. Quoi.
Donc l'article publié en Belgique dans La Capitale du 2 novembre 2019 est faux et je vous pose la question, je veux dire pourquoi, parce que vous avez participé il y a quelques semaines à l'émission Les Reines du Shopping où se trouvait Roselyne Bachelot, désormais notre ministre de la Culture, et vous avez expliqué à TV Mag, c'était fin août, que vous n'aimiez pas le shopping, je vous cite, j'y vais en traînant les pieds, ça m'angoisse, je ne sais pas quoi choisir. En fait, vous faites de la pâtisserie, vous n'aimez pas ça, vous faites du shopping, vous n'aimez pas ça.
J'ai animé les maternelles, j'aimais que mon enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais oui, mais est-ce qu'il faut, en télévision, avoir un dada pour forcément présenter une émission? Moi, je crois que la distance, c'est bien. Le second degré, c'est bien. Et que, au contraire, aller sur un terrain qui n'est pas forcément le nôtre peut amener, justement, quelque chose de nouveau. Si j'étais férue de pâtisserie, nous avons Cyril Lignac, nous avons Mercotte qui est férue de pâtisserie et 14 pâtissiers qui en sont dingues. Ouais. Imaginez si moi-même j'étais complètement dingue de pâtisserie, ça s'appelle une secte en fait, c'est plus une émission télé. Donc je suis ravie de faire partie des gens raisonnables par rapport à son activité de pâtissière.
Puisque vous parlez de dada, vous aimez le Quintet Plus?
Je pourrais, on est à deux doigts.
Moi, je vous demande ça parce que vous pourriez présenter. Vous pourriez présenter une émission sur les courses hippiques et vous connaissez la phrase de Flaubert, pas besoin d'être un cheval pour jouer aux courses. Merci beaucoup.
Eh bien,
Julia Vignali.
J'adore ce monsieur.
La 9e saison du Meilleur Pâtissier, c'est ce soir sur M6 à 21h. Merci pour cet hommage à Flaubert. Merci Julia Vignali.
Merci à vous Philippe.
Culture Média, ça continue évidemment après le rappel des titres de 10h. Nous recevrons Eva Rock pour le zapping du lendemain et Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial bébé. Notre invité culture, c'est l'humoriste, comédien et réalisateur Kairon pour son nouveau film Brutus contre César. Et son spectacle, On n'éteindra pas la lumière. Et puis dans les indispensables, un album au féminin et une série sur un kidnapping. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.